Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour à tous.
Et de Ben.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité, nous vous parlerons du retour de la franchise The Fear Effect. On enchaînera ensuite sur un mode de StarCraft 2. Nous parlerons de Shovel Knight, dont les développeurs ont dévoilé pas mal de chiffres. Nous passerons ensuite à Ark, qui va passer à la caisse pour éviter un procès. Et enfin, nous terminerons cette émission avec des soucis sur Dark Souls 3 et The Division, sans oublier notre jeu du moment, The Evil Within. Allez, c'est parti, on va commencer donc avec Fear Effect. Alors, Fear Effect, pour ceux qui auraient oublié cette franchise qui date de l'ère PlayStation, c'était un jeu qui s'inspirait très fortement de Resident Evil, n'est-ce pas? En tout cas, en termes de vue, c'est-à-dire que c'était, vous savez, des décors précalculés avec des angles de caméra fixes. Bon, la franchise, en l'occurrence, c'était beaucoup plus axée action. C'est un jeu aussi qui avait émoustillé, n'est-ce pas, les adolescents que nous étions à l'époque, parce que il se pavanait dans les magazines avec deux nanas en petite tenue, n'est-ce pas? Et donc la franchise Fear Effect revient aujourd'hui sur Kickstarter. Alors, pour ceux qui se rappellent, Fear Effect, c'est une franchise Square Enix actuellement. Mm-hmm. Et là, donc, ils sont sur Kickstarter. Alors, pourquoi ils sont sur Kickstarter? Parce que, dans un premier temps, le studio qui s'appelle Sushi avait fait un premier jeu pour le Square Enix Collective, où là, c'était vraiment un projet à eux, en fait. Ils ont abouti à quelque chose avec ce projet. Je vous avoue, j'ai pas du tout suivi ce qu'ils ont fait, mais je sais qu'ils ont fait quelque chose avec Square Enix. Ils ont délivré, donc, un jeu, et donc là, ils ont la confiance, on va dire, de Square Enix pour reprendre une de leurs franchises. Et en l'occurrence, la franchise qu'ils ont décidé de reprendre, c'est Fear Effect, qui va donc revenir avec un épisode sous-titré Sedna. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ce projet cette semaine? C'est pas tellement parce qu'il m'intéresse, je vous avoue, même si sur le papier ça peut être intéressant. En gros, ils veulent faire un espèce de jeu d'action tactique. Ils ont complètement changé de vue, c'est plus, tu sais, des caméras fixes à la Resident Evil, c'est une vue isométrique vue du dessus, où ils vont essayer de faire des combats un peu plus tactiques, mais en temps réel par contre. Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, parce que déjà j'ai un gros souci avec ce Kickstarter. C'est que il est issu du programme Square Enix Collective et que déjà à la base je me dis quand même, attends, c'est une franchise d'un éditeur, vous foutez notre gueule, est-ce que Square Enix pourrait pas sortir le pognon pour financer ses propres jeux, tu vois? Et ensuite, là où ça me fout vraiment en rogne, si vous voulez, c'est que il y a des gens qui vont donner ce pognon sur Kickstarter, et sur les 100 000 dollars qui sont demandés actuellement, il y aura un pourcentage qui ira à Square Enix. Et là, alors là, si vous voulez, on atteint les sommets du foutage de gueule. Alors, je veux bien que Square Enix leur file un coup de main pour leur campagne, etc. Mais je vois pas pourquoi je leur filerais du pognon via financement participatif. Faut arrêter, là, c'est un éditeur, merde, quoi. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de la semaine, en fait. Personnellement, je ne financerai pas ce projet, quand bien même ça a l'air plutôt correct. Encore que, on pourrait arguer que... ce serait un éditeur qui sortirait ce projet, on lui reprocherait de faire un jeu qui a pas grand-chose à voir finalement avec l'original, en termes de gameplay, j'entends, hein. Sur papier, après je trouve pas forcément l'idée inintéressante, hein. Mais c'est juste que, voilà, personnellement, c'est surtout ce côté-là où t'as un éditeur qui refile une franchise, un studio, et qui dit « Alors demandez du pognon aux gens, et au passage refilez-nous une com sur ce pognon que vous allez gagner ». Déjà que, en plus, sur Kickstarter, je veux dire, ils demandent 100 000 dollars. Il y a une partie de ce pognon qui va aller à Kickstarter, à l'organisme bancaire et à l'État français.
Et sur le pourcentage, il y a 5% qui vont à Square Enix sur le, voilà, Kickstarter.
Voilà. Donc, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup de pognon qui va partir. Et je me dis, alors attends, ça veut dire qu'en gros, ils vont récupérer quoi sur 100 000 euros? Ils vont récupérer 60 000 euros? Alors là, c'est un chiffre à la louche que je donne, je me suis pas amusé à faire les calculs, mais disons qu'il y a une partie non négligeable de l'argent qu'ils vont gagner là, qu'ils vont pas recevoir au final, parce qu'en plus, je rappelle qu'il faut compter, Il y a plein de gens en fait qui disent qu'ils vont donner de l'argent et au final, quand tu fais le transfert d'argent, ben ça passe pas en fait pour tout un tas de raisons, plus d'argent sur le compte, un souci avec la banque, ce genre de choses. Et donc potentiellement, en fait, ça veut dire qu'ils vont recevoir que dalle sur ces 100 000 euros quoi. Et du coup, je me dis, est-ce que c'était bien nécessaire et est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule quand même quoi. Voilà. Donc ça, c'était mon coup de gueule cette semaine. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou si on enchaîne.
Non, parce que Square Enix, en fait, ils font vraiment un travail uniquement d'édition du jeu et sans plus quoi. C'est-à-dire qu'ils leur filent la licence et leur dit démerdez-vous. Après, moi, ce que je trouve assez étrange dans le projet, c'est que ils s'éloignent pas mal quand même des Fear Effect 1 et Fear Effect 2 en termes de de prise en main et de gameplay. Et peut-être que les gens qui justement souhaitaient voir le retour de la licence s'attendaient à un Fear Effect 3 dans la veine des premiers. Et là, c'est vrai que c'est assez paradoxal, quoi.
Précision, pour le moment, ils sont à 44 870 euros. A priori, je pense qu'ils vont être financés.
C'est bien parti, ouais.
Mais personnellement, c'est pas un Kickstarter que je recommande, même si c'est un projet d'un studio français, précisons-le.
Oui.
Ce genre de pratique, je suis pas fan, quoi. Voilà.
Ouais, moi non plus, surtout que c'est Square Enix qu'il y a derrière, et Square Enix, ils ont quand même pas mal de pognon, hein, avec tout ce qu'ils ont balancé dans Final Fantasy XV en
Ouais, non, mais tu
communication.
vois,
justement,
que tu
ils en
refiles...
ont plus, là, c'est l'histoire.
Ouais, c'est
Ouais,
ça,
bah
que tu
justement, tu
refiles
vois.
tes franchises à des petits studios, tu vois, parce que toi, tu vas plus t'en occuper très bien, mais demande pas l'argent aux fans pour ça, quoi, merde. Enfin, surtout, enfin, ce qui me scandalise vraiment, c'est le côté, les gens vont donner de l'argent, et il y a une partie de cet argent qui va aller à Square Enix, quoi. Vous foutez notre gueule? Sérieusement? Un éditeur, quoi. On va donner l'argent à un éditeur pour financer un projet. Vous moquez de nous. Le rôle d'un éditeur, c'est pas de financer des projets, justement.
Avec tout le pognon qu'ils ont
Enfin.
balancé dans la communication de Final Fantasy XV, je pense qu'ils auraient pu financer au moins 15 Fear Effect.
Bon, allez, on va enchaîner, mon cher Ben, sur une note un peu plus positive,
Oui.
avec un projet de fan, n'est-ce pas? C'est un projet, je crois, de, disons, remake de Diablo 2 sur StarCraft 2, en fait, c'est
Voilà,
ça?
c'est ça. En fait, c'est un youtubeur de nom de Eggoboot. Voilà, simple à dire, qui a décidé en fait de recréer tout simplement Diablo 2 avec le moteur de StarCraft 2, donc d'en faire un mode. Et enfin, c'est difficile d'en parler, mais je pense qu'il faut surtout voir la vidéo parce que c'est juste vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Enfin, si les gens se souviennent un peu de Diablo 2 et tu vois ça à côté, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi.
Enfin, ce qui est impressionnant, c'est que c'est une alpha surtout, quoi, et c'est très propre pour une
Ouais,
alpha, quoi.
voilà. Alors après, ouais, on a qu'une vidéo pour l'instant. Il y a un peu de gameplay dans la vidéo, mais bon. Voilà, pour l'instant, c'est juste une alpha. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est que du coup, comme c'est un mode qui va être disponible sur StarCraft 2, Blizzard va pas du tout le bloquer.
Bah, il y a déjà un projet de remake de Warcraft 3 sur StarCraft 2 en fait. Ils ont toujours pas bloqué le projet, donc je vois pas pourquoi ils laisseraient passer
Voilà, et en
Warcraft 3
plus
et
là,
pas
donc du
Diablo
coup,
2,
c'est
tu vois.
un, il va être disponible en fait sur Battle.net directement. Ils ont une partie en fait où il y a des choses comme ça qui sont disponibles. Pour l'instant, ça a l'air vraiment joli, vraiment sympa pour ceux qui ont adoré Diablo 2. Je pense que ça peut les attirer, ouais.
Bah, surtout qu'il y a pas mal de gens qui disent oui mais ils vendent Diablo 2 encore sur Battle.net et tout, ils vont forcément bloquer. À mon avis, franchement, ils gagnent pas des milliers de cents avec Diablo 2, hein, mais
Oui,
bon.
non, je sais pas.
Je pense qu'ils ont beaucoup plus intérêt à avoir des gens qui s'intéressent à StarCraft 2, tu vois, et
Exactement.
voilà, qui se procurent le jeu par ce biais-là, plutôt que de bloquer un projet de fan. Et puis même en termes d'image, si tu veux, je pense que ça mange pas de pain.
Non, après, bah, attention, voilà, on a déjà parlé ici, il y en a qui bloquent tous les projets de fans. Eux, s'ils décident de les laisser, bah, tant mieux pour nous et tant mieux pour eux aussi, parce que, enfin, nous, on est plus de l'avis de dire que ça fait de la pub positive à un studio plutôt qu'autre
Ouais.
chose, mais bon. Après, c'est
Bah en
voilà.
fait c'est Blizzard, ils sont très forts en tout ce qui est communication, hein.
Ah
Et
ben ouais, ils ont une grosse communauté, donc il faut
bah
pas trop
oui.
les
Non mais c'est ça,
pour.
quand t'as une communauté qui est aussi forte que ça, bah au contraire il vaut mieux les chouchouter plutôt que de leur
Ouais,
mettre des bâtons
bon,
dans
bah
les roues, hein.
regarde
Sans
Konami,
je
ils
sans
en ont rien à foutre, hein.
voilà. Et aussi on pourrait citer aussi Nintendo, tu vois, dès que tu essaies de
Oui.
faire même ne serait-ce qu'une traduction non officielle sur une ROM d'un jeu qui date, et bah Nintendo va te mettre des bâtons dans les roues parce que
Ben.
il pense que le jeu va se vendre sur WiiWare à 5 euros, alors que le jeu, enfin même pas, tu vois, par Earthbound c'était 10 euros. C'est quand même un jeu qui date de la Super NES, quoi.
Bon, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on parle maintenant d'un projet, enfin d'un projet, d'un jeu qui est sorti et dont les développeurs ont rediscuté en chiffres, n'est-ce pas, en chiffres assez détaillés d'ailleurs, c'est Shovel Knight. Alors pour rappel, Shovel Knight, c'est donc un jeu de plateforme qui s'est vendu à 1,2 million d'exemplaires actuellement. Il a passé le million en décembre, je crois. C'est quand même un projet qui, je rappelle, avait été financé sur Kickstarter, qui a connu un franc succès, notamment chez nos amis speedrunners, je crois.
Ah oui.
D'ailleurs, notre ami Mamie a été un gros speedrunner du jeu à un moment donné, même s'il a un peu laissé tomber depuis. Mais voilà, enfin, c'est un jeu quand même qui a eu un énorme succès. Je veux dire, un petit jeu pixel art de plateforme qui finalement, certes, est très bien conçu, mais ne réinvente pas la roue. Voilà, c'est quand même un beau succès, quoi. 1,2 million. Alors, même si on soupçonne qu'il y a pas mal de copies qui ont été vendues en solde, etc. Voilà. Et donc, ça y est, les développeurs ont fait un post-mortem, où vraiment, ils ont détaillé en chiffres tout ce qu'ils ont vendu. Ce qui est assez rare, parce que finalement, en général, tu sais, il y a les clauses de confidentialité, comme ça, je sais pas comment ils sont démerdés pour réussir à sortir ces chiffres sans que ça pose de problème.
En fait, mais... la clause de confidentialité concerne, je crois, une année où tu peux pas divulguer les chiffres. Et après, c'est ta carte blanche, en fait.
Voilà. Donc là, on a eu un gros post que je vous mettrai en lien de la description du podcast. Le but, c'est pas vraiment de dire tout ce qu'il y a dessus. Moi, je vous invite vraiment à lire ce qu'ont dit les développeurs. Le but ici, c'est plutôt de prendre les éléments qui nous intéressent. Alors quand même, sur les 1,2 million de copies vendues actuellement, on note que la plus grande part a été vendue d'un côté sur Steam, ouais. 32%, et de l'autre, attention, étonnant, sur 3DS. La 3DS qui a 29%.
À noter qu'en plus, c'est un jeu qui est sorti sur toutes les plateformes, vraiment. C'est assez rare pour le noter. C'est du 3DS, c'est du PS Vita, c'est du PS3, du PS4, du Wii U, du Xbox One. Enfin, c'est vraiment, ils ont ratissé large, quoi.
Est-ce qu'il y a une version Ouya?
je crois pas, mais en tout cas, elle apparaît pas sur les graphiques. Donc ça doit être moins de 1% parce que il y a même des plateformes où c'est 1%. Donc s'il y a pas la Ouya, c'est que voilà. Donc alors là où c'est intéressant, c'est que alors certes, il s'est un peu moins vendu sur 3DS par rapport à Steam, mais pour eux, d'après ce qu'ils disent, c'était plus intéressant sur 3DS. Pourquoi ? Parce que sur 3DS, les gens achètent moins en solde, tout simplement. Je veux dire, c'est une plateforme Nintendo, hein, vous savez tous que ça ne fait pas vraiment partie des habitudes de Nintendo de solder les jeux sur ces plateformes, n'est-ce pas? Après, viennent en queue de peloton donc la Wii U, 17% quand même, hein, c'est tout à fait respectable, la PS4, 10%, la Xbox One, 5%. Alors, à noter quand même que sur ces deux plateformes, le jeu est sorti beaucoup plus tard, je crois.
9 mois après.
Voilà, et enfin, pour terminer, la PS Vita, 4%, la PS3, 1%. Et des plateformes que personnellement j'affectionne beaucoup, à savoir le Humble Bundle et Good Doll Games, qui sont chacun à 1%. Et ça, j'avoue que ça me déprime un peu de me dire quand même que des plateformes DRM Free vendent aussi peu. Ça démontre, si vous voulez, la domination de Steam sur PC, quoi.
Et surtout, bah donc, comme tu l'as dit, le jeu s'est vendu à 1,2 million d'exemplaires, dont 1 million en téléchargement et 200 000 en version boîte, qui sont sortis sur donc 3DS, Wii U et console Sony. Faut savoir aussi que le jeu continue actuellement encore à se vendre à moyenne de 30 000 copies chaque mois, ce qui n'est pas rien. Mm-hmm. Donc voilà, moi c'est un succès quand même pour un jeu comme ça, quoi, qui est sorti. Tu l'as dit, c'est pas très original, mis à part que c'est un chevalier qui se balade avec une pelle. Voilà. Après c'est un jeu de plateforme classique, mais bon, qui fait les choses bien, moi.
Ça fait plaisir de voir des projets Kickstarter qui ont un tel succès, parce que voilà, on a déjà parlé ici, au début Kickstarter c'était à la mode, il y avait plein de projets, il y en a plein qui n'ont pas abouti, etc. Là pour le coup, ça fait partie des succès de Kickstarter celui-là, c'est faut le dire quand il y en a aussi, quoi.
Alors parmi les chiffres, moi, qui m'ont beaucoup intéressé, c'est le prix que leur a coûté l'add-on gratuit qu'ils ont sorti, parce que je sais pas si vous avez suivi un peu le jeu. En gros, à un moment donné, ils ont sorti une extension avec l'un des personnages du jeu qui est le Plague Knight. Tu refaisais le jeu de manière différente avec un autre perso, etc. Cette extension était totalement gratuite, mais pas pour eux, évidemment. Il y a eu un coût derrière, et ce coût, on le connaît désormais. Et c'est pas mal, ma foi, parce que c'est quand même 1 million de dollars. Une extension gratuite comme ça, pour un petit jeu de plateforme en 2D, ça coûte 1 million de dollars. Ce qui, quand même, est assez conséquent quand on connaît la taille du studio. Je veux dire, c'est 8 personnes. Mm. Hein. Alors, je vous laisse imaginer quand c'est des gros studios, genre c'est des projects, hein, qui sortent des Enhanced Edition gratuitement. Le prix que ça doit coûter, ça doit être pas mal, surtout sur un genre 3D, tu sais, où c'est quand même assez compliqué ce genre de choses. Alors après, est-ce qu'ils regrettent d'avoir sorti une extension à ce prix-là? Bah, ils disent que non, parce qu'ils estiment en fait tout simplement que ça a contribué aux ventes du jeu, quoi. Finalement, le fait de distribuer ça gratuitement, ça, si tu veux, entretenu la vie du jeu, entre guillemets, et que c'est pour ça qu'on en est à 1 million aujourd'hui. Et j'aurais tendance à penser qu'ils ont pas tort, parce que les petits jeux de plateforme en 2D pixel art comme ça qui dépassent le million d'exemplaires, je connais pas beaucoup.
Comme l'a dit, je crois que c'est ATH, ils continuent à se vendre à 30 000 exemplaires par mois. Bah, c'est peut-être pas pour rien, hein. C'est peut-être parce que voilà, il y a du contenu qui a été rajouté et que dans ce cas-là, les joueurs peuvent se dire, ah, bah, peut-être qu'il y en aura encore par la suite, gratuitement. Donc, le jeu continue de vivre malgré tout.
Alors, du côté des stats un peu déprimantes quand même, mais bon, ça malheureusement, c'est commun à tous les jeux qui sont vendus, hein. Le nombre de personnes qui ont terminé le jeu. Ça, c'est les stats Steam, notamment. 32% des utilisateurs Steam ont terminé le jeu. Ce qui est classique, hein, il faut le dire, malheureusement. Ceux qui ont réussi à terminer le jeu en New Game Plus, c'est 2%. Donc, ça veut dire vraiment qu'il y a très peu de joueurs qui terminent leur jeu. C'est malheureux. Surtout que bon, même si le jeu a du challenge, c'est quand même pas non plus voilà le jeu plus dur de l'univers. 5% des utilisateurs du jeu donc ont joué sur Mac et 1% sur Linux. Voilà. Ça c'était les stats, tu sais, pour rappeler que les mecs comme moi qui réclament du DRM free ou qui veulent du Linux, du Mac, etc. Malheureusement, on n'est pas beaucoup.
Mais après, la stat de gens qui ont terminé ce jeu. Ça s'applique à tous les jeux, même des jeux ultra faciles, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui font le premier chapitre, le deuxième chapitre d'un jeu, et après ils laissent tomber, ils passent à un autre jeu.
On sait même que sur Steam, il y a plein de gens qui lancent même pas les jeux, qui les achètent en solde ou dans des ouais, packs et qui des fois les lancent même pas. Donc
en fait, les statistiques où le nombre de gens terminent plus leur jeu, c'est les jeux souvent à format épisodique ou bien tu sais les jeux Quantic Dream comme Heavy Rain et Beyond Two Souls, où là, justement,
les jeux narratifs, un peu.
Voilà, par exemple, je crois que la statistique sur Heavy Rain, c'était l'inverse, en fait, de celle qu'on a sur Shovel Knight. C'est 70% des gens qui ont terminé Heavy Rain. Et ça, je pense que ça fera plaisir à la teigne.
Oui, d'ailleurs, la teigne, si on n'a pas parlé d'Heavy Rain, personnellement, c'est parce que j'avais rien à dire dessus, hein, mais voilà. Bon, messieurs, je vous propose d'enchaîner, n'est-ce pas? Encore une fois, je vous mettrai le lien vers l'article où il y a toutes les stats en détaillé. Vraiment, ils ont fait un super boulot. D'ailleurs, j'aimerais les remercier pour ça parce que c'est rare d'avoir des chiffres, c'est rare d'avoir un développeur qui se donne la peine vraiment de donner tout ça, ne serait-ce que parce que, tu sais, le fait de donner ces chiffres, on pourrait se dire, oui, vis-à-vis de la concurrence ou ça, voilà, est-ce que ça pose pas de problème et tout. Là, ça fait du bien, tu vois, d'avoir un dev qui est là et qui te détaille vraiment, y a tout, hein, genre, il parle des amiibo aussi, donc je pense que monsieur Oscar Le Maire, il va se pencher là-dessus, ça va l'intéresser beaucoup, je crois.
Monsieur Chiffre.
Voilà. On va enchaîner maintenant sur Ark, qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, a eu des petits soucis récemment, des petits soucis de procès. Pourquoi ? Parce que il se trouve que l'une des fondatrices du studio est mariée à un monsieur qui a bossé notamment pour le studio qui est derrière Dungeon Defenders. Ce monsieur, notamment, avait signé un... Comment dire ? Vous savez, quand vous démissionnez, parfois, vous devez signer un accord comme quoi vous bosserez
pour
pas...
Pour clause de non-concurrence.
Une clause de non-concurrence, voilà. Le truc, c'est que, donc, il avait pas le droit de bosser sur un nouveau projet, sauf que, quand ils ont fondé le studio Wildcard, en fait, c'est pas lui qui a créé la société, c'est son épouse. Sauf que son épouse, elle a jamais été développeuse, en fait. Elle a même jamais travaillé dans le milieu du jeu vidéo. Est-ce que ça vous paraît pas suspect par hasard?
Légèrement.
Voilà. Il se trouve en plus qu'apparemment le monsieur a utilisé des technos sur lesquels il avait bossé en fait à son ancien taf. Et que c'est ces technos qui ont servi de base à Ark Survival Evolved.
Oui, il y a même des soupçons comme quoi il aurait volé l'idée du concept. Alors ça, bon, on en est beaucoup moins sûr.
Ah, ouais, pour ça, c'est...
Voilà, exactement ça, on en est beaucoup moins sûr, mais... Parce que c'est sûr que c'est facile pour Trendy de dire « Ah, ben, c'est eux qui nous ont volé l'idée d'Arc. » C'est un peu facile, mais après, voilà, comme tu dis, c'est parole contre parole.
Donc, du coup, ben, il se trouve que le studio derrière Dungeons Defenders, c'est Trendy Entertainment, je crois, avait menacé, enfin, avait ouvert un procès, quoi. Et ils ont trouvé un accord à l'amiable, apparemment. Enfin, c'est ce qu'on a appris via une fan du jeu qui, apparemment, a eu une conversation sur Twitter avec la fondatrice du studio. Et... Ben apparemment, ils se sont arrangés pour un petit chèque de 40 millions de dollars. Apparemment, il y a des morceaux de la conversation qui ont été masqués et tout, mais ça a quand même été confirmé par l'intéressé. D'après ce qui se dit, Trendy Entertainment demandait quand même 600 millions de dollars à la base.
Ah oui.
Donc ça va, 600 millions, 40 millions, bon, ça, la facture a été réduite, quoi.
Une petite ristourne, au cas.
Non, mais à mon avis, tu sais, ils ont demandé beaucoup pour les inciter à négocier, en fait, tu vois. C'est, et... Du coup, moi, ce qui m'interroge avec cette news, c'est quid de l'avenir de Ark, parce que quand même, 40 millions de dollars, ça fait une bonne partie de la caisse qui est partie quand même, là, d'un coup. Hein.
Ouais, je pense qu'ils ont pas de soucis à se faire.
Bah oui, mais attends, certes, le jeu, il a dépassé le million depuis longtemps, mais quand même, 40 millions de dollars, t'as quand même une partie du budget qui vient de sauter d'un coup, là, quoi.
Alors, il est toujours pas sorti sur console en plus, donc en termes de vente, je pense que ça peut encore bien augmenter. Après, c'est sûr que ça va leur faire un trou, mais bon. Après, on n'a pas les chiffres exacts. Il me semble qu'ils avaient déjà dépassé les 2 millions en fin d'année dernière de vente.
Il n'y a pas déjà la version Xbox One?
Ah, c'est peut-être. La question que je me posais en fait.
Je crois qu'il y a une version Xbox One, mais c'est vrai que je suis pas sûr.
Il est sorti en accès anticipé.
Ah, peut-être en accès anticipé, ouais. Finale en tout cas, ouais.
Alors, juste pour les chiffres de Steam Spy, le jeu actuellement, c'est 2 977 684 exemplaires, environ, hein, comme d'habitude. Il y a une marge d'erreur de 41 000 exemplaires. Les chiffres de Steam Spy en général sont assez fiables. Donc ça veut dire qu'il est quasiment à 3 millions, apparemment.
Pour un jeu en accès anticipé, c'est quand même pas mal.
Donc 3 millions d'exemplaires x 30. Enfin, je dis x 30, mais en vrai, c'est pas ça, hein, parce que t'as la commission de Valve.
Oui, plus les soldes. 30% plus,
déjà. Ouais, plus les soldes, plus les machins, plus les trucs. Alors normalement, en théorie, ça ferait 90 millions, tu vois, mais en fait, ça serait beaucoup moins, quoi. Donc 40 millions sur ça, c'est
quand
même pas mal.
Oui, ça va leur faire un trou dans le budget, mais c'est un jeu qui se vend, qui est toujours en termes de vente dans les top Steam depuis un an. Chaque semaine, il y est quelque part, pas premier, mais il est toujours quasiment dans les 10 premiers.
Il a quand même un peu baissé.
Ouais, il a baissé, c'est sûr, mais bon, après, voilà, il y a un moment où ça s'essouffle un peu. Je pense qu'il va y avoir un gros coup de boost au moment de la sortie finale du jeu. J'imagine, en tout cas, je pense qu'il prévoit quand même un petit mode, un petit truc. Je pense qu'il va y avoir un truc sympa au moment de la sortie. Ça va pas être une sortie banale parce que le jeu est déjà ultra jouable en état actuel, même pour une bêta ou une alpha. Enfin, un accès anticipé. Donc je pense qu'il prévoit voilà plusieurs choses. Puis on en a parlé récemment qu'il voulait vachement s'initier dans l'e-sport. Donc pour moi, ça va continuer. Ça va leur faire un trou. Et je pense que s'ils ont accepté de payer, c'est que ils pouvaient se le permettre aussi, même si ça leur évite tout de même un procès. Mais je pense que voilà, s'ils ont donné 40 millions, c'est que ils ont confiance en leurs chiffres et à ce qu'ils peuvent faire avec.
Bref, s'ils ont donné 40 millions, c'était qu'ils avaient pas le
choix.
Oui,
bien sûr. Bah, ils auraient pu continuer le procès et l'étendre parce qu'on sait que voilà, des fois, ce genre de procès, ça s'étale sur 2-3 ans, enfin même plus parfois. Donc ils auraient pu se dire ah, on l'étale le temps qu'on rentre encore un peu d'argent, qu'on sorte le jeu de façon définitive, etc. Là s'ils les ont payés, c'est qu'ils devaient se dire que voilà c'était pas si grave entre guillemets.
Ce genre d'affaires, tu vois, ça me fait penser aussi à l'affaire qui est actuellement entre Rockstar North et Leslie Benzie qui réclame 150 millions de dollars à Rockstar.
C'est l'ancien boss de Rockstar North.
Voilà, c'est ça.
Je précise.
Et Rockstar du coup à son tour l'a attaqué et tu vois, on n'a pas tous les détails derrière pour savoir justement qui est en tort ce genre d'histoire. Ouais.
Bon, on va parler maintenant de Dark Souls 3, Ben.
Oui.
Dark Souls 3 sur PC qui a quelques petits problèmes. Non, un problème notamment qui est assez fâcheux,
ouais,
je crois.
Un gros problème, c'est au niveau de... Bah, c'est le jeu qui plante, en fait, au moment où vous... Alors, a priori, où juste vous approchez du premier feu de camp où on arrive assez rapidement, bah, votre jeu crache complètement sur PC. accès, ça ne le fait pas sur tous les PC, bien entendu.
Moi, donc, par exemple, j'ai voilà. aucun souci avec le jeu, mais vraiment aucun, quoi.
Donc c'est assez problématique parce que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment trouvé l'origine du problème, donc bah ils peuvent pas vraiment le corriger. Et du coup, bah ça, pour un jeu qui a priori, de ce que j'en ai entendu de mes deux comparses, c'est vraiment bien, il prend quelques critiques négatives sur Steam. Et bah ça peut paraître logique parce que les gens qui ont acheté le jeu à 60 euros, je crois qu'il est sur Steam.
Oui.
Si c'est un jeu qui du coup pas jouable parce que c'est même pas le fait de sauvegarder, c'est le fait de s'approcher du point de sauvegarde. Puis on sait que c'est un jeu qui est assez dur, donc si on peut pas sauvegarder, c'est juste impossible de le faire, quoi.
Non, mais surtout que là où c'est super vicelard, c'est que t'es obligé de passer à côté.
Non, puis bon, on sait que c'est un jeu où on meurt assez souvent, on recommence, donc c'est un jeu si on peut pas sauvegarder, c'est même pas la peine.
Mais en fait c'est tu peux sauvegarder, enfin le jeu sauvegarde ponctuellement. C'est-à-dire que si tu quittes la partie n'importe où, ça va sauvegarder. Mais le problème c'est que si tu n'as pas accès au feu, tu pourras pas aller retourner au sanctuaire pour augmenter tes statistiques, etc.
D'accord.
Ou même tu vois, le feu c'est aussi un checkpoint. C'est-à-dire quand tu meurs dans une zone, tu reprends au dernier feu où tu t'es accroupi.
Point de sauvegarde est un abus de langage.
Ouais.
Pas approprié en l'occurrence.
C'est pour ça que je remets ces choses-là. Après, je comprends tout à fait que le jeu se fasse démonter la gueule par les gens qui ont acheté le jeu sur Steam.
Ah bah ouais.
Parce que c'est pas normal. T'achètes en jeu une certaine somme. Tu veux avoir l'expérience normale d'utilisation.
Ah, surtout que Dark Souls 3 c'est pas le jeu le moins cher de Steam. Hein. Je crois qu'il a 500 balles. Enfin,
ouais, voilà. C'est un jeu plein tarif. Y a pas de cadeau. Ouais.
C'est le prix d'un jeu normal, on va dire. Mais dans ce cas-là, si tu sors ton jeu, il faut que tu t'assures de l'avoir testé dans toutes les conditions possibles, et même faut que tu prévois des problèmes que des gens ne seraient pas posés à la base.
Mais là, ce qui me fait flipper, c'est que ils savent pas où est le souci.
C'est ça, pour l'instant, ils arrivent pas à le trouver.
Avec tous les outils que propose Steam, tu sais, pour envoyer des rapports d'erreurs, etc., ils savent toujours pas le problème.
Ouais, bah ça c'est...
Bon, après, l'avantage, c'est qu'on est sur Steam, donc les gens pourront se faire rembourser. A priori, ils y ont joué moins d'une heure. Donc voilà, mais enfin, c'est dommage, parce que je pense que ça va affecter les ventes du jeu. Ah tiens, d'ailleurs, je viens de voir Final Fantasy 9 est passé devant Dark Souls 3. Il est en première place de Steam.
D'ailleurs, que le portage est totalement fini à la piste, lui aussi.
Mais les gens achètent, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, voilà. Ce qui est dommage aussi, c'est que, fondamentalement, ce Dark Souls 3, en termes de finition sur PC, mis à part ce gros souci de crash, qui n'arrive pas chez tout le monde, ça marche très bien.
Bah, c'est ça qui est dommage, parce que c'est un jeu qui est bien fini, qui a été bien fait, il n'y a pas vraiment de bug in-game, mais il y a ce problème-là. Pour les gens qui ont acheté le jeu, c'est injouable, donc c'est quand même un énorme problème. Ouais.
Mais justement, en parlant de problèmes.
Ah oui, si je voulais enchaîner, c'est ça, avec notre prochain client.
Ouais, exactement, parlons plutôt de la soustraction, ou plutôt de la division que a commis Ubisoft.
Donc, ATH, il se passe quoi chez Ubisoft et The Division? Enfin, il s'est passé quoi en l'occurrence? Parce que, apparemment, l'incident serait réglé, de ce que j'ai compris. C'est quand même assez problématique, quoi.
Ah oui, alors là, donc, The Division, un jeu. Un petit jeu comme ça qui s'est pas très bien vendu, hein, vous savez. Ubisoft donc a décidé, vous savez, comme c'est un jeu qui se joue uniquement en multijoueur, il y a certains ajouts qui sont faits, etc. Donc il y a le patch régulier qui arrive, et le dernier patch, en fait,
c'était sur Xbox One, c'est
exactement. Bah, a tout simplement eu la mauvaise surprise pour les joueurs de Xbox One d'avoir leur personnage qui a complètement disparu du jeu. Tout ce que vous avez pu faire a été purement et simplement effacé.
Voilà. Bon, en l'occurrence, le problème a visiblement été corrigé, et les personnages ont été restaurés dans l'état où ils étaient, en fait.
Oui, parce qu'ils avaient sûrement des sauvegardes, et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une sorte de rollback au niveau des personnages, c'est-à-dire qu'ils ont eu le bug à tel moment, et ils ont réussi à récupérer, en fait, les personnages juste avant ce bug, avec les niveaux qu'ils avaient à ce moment-là. Donc, il y a eu une petite perte de peut-être d'une journée d'XP ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ils ont réussi à récupérer les personnages à un instant T qui était un peu au moment, avant le moment du bug.
Mais tu vois, alors imagine justement si ça avait été un jeu solo. Hop! Ah, plus perso. Ah là, tu avais un perso, t'avais plus perso. Pour moi, le problème, c'est que ça démontre le je m'en foutisme avec lequel sont déployés les updates aujourd'hui, en fait.
C'est ça.
C'est-à-dire que maintenant, comme on peut faire des patchs tout le temps, ben... les bah tests, maintenant,
on sort les jeux buggés et on fait les patchs après. Donc,
des patchs. Et on fait des patchs buggés qu'on repatchera voilà, après parce qu'ils sont buggés.
Et le problème, c'est que des fois, alors là, ils ont réussi à le corriger. Ça a un peu râlé. Du coup, comme c'était que sur Xbox, j'imagine que c'est pas là où le jeu s'est le plus vendu. Donc, ça a râlé, mais ça a pas pris une grosse ampleur. Mais ça, voilà, c'est toujours le même problème. C'est que c'est bien de sortir des jeux, mais des jeux en ligne comme ça avec qui peuvent avoir ce genre de problème, ça a besoin d'être ultra testé. Parce que, enfin, c'est un fonctionnement MMO. Si tu perds ta progression alors que tu as joué déjà, je sais pas, 80 ou 100 heures, t'es dégoûté, tu remets plus. Enfin, moi, je sais que j'y rejoue pas, quoi.
Ah, mais non, mais c'est clair, parce que, voilà, comme on a dit, c'est un jeu où, avec le système de RPG, donc, tu prends pas mal d'expérience, etc.
Il y a pas mal de grinding aussi, mm-hmm. de ce que j'ai compris.
Bah, donc, jeu qui est vachement basé sur la statistique. C'est-à-dire que si t'as deux niveaux de moins qu'un ennemi, bah ça va être compliqué.
Faut jouer.
C'est ça. Et voilà. Là, le fait que si t'es un gros joueur et que finalement c'est un jeu que où t'as passé beaucoup de temps dessus, t'as grindé, t'es arrivé à un certain niveau, bah devoir tout recommencer depuis le début, dans le cas où Ubisoft n'aurait pas réussi à remettre la sauvegarde en place, bah moi je pense que j'aurais pété le CD quoi.
Alors en gros, ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris, c'est que vraiment il y a eu un souci de synchronisation. C'est exactement le même problème, tu sais, qu'on avait décrit sur Hitman. Mm-hmm. Bon, en l'occurrence, Hitman, il y avait une autre particularité, c'est que tu peux vraiment y jouer en solo, en fait, et que là, du coup, c'est vraiment une dichotomie entre la partie solo et la partie multi. Mais encore une fois, tu vois, c'est toujours la même chose. Quand tu joues à un jeu en ligne et que t'as des soucis de synchronisation avec le serveur, bah, ça peut produire ça.
C'est peut-être pour ça qu'il faudrait qu'ils instaurent une sauvegarde offline pour leur jeu, même online, tu vois.
Ouais, mais ils le feront pas, tu sais pourquoi ? Le shit ?
Ouais, mais bon,
C'est pour ça, hein. Non, mais c'est pour ça que 90% des jeux maintenant qui sont orientés multi ont une connexion, tout le temps, enfin, permanente.
Ouais, permanente.
C'est parce que ils ne veulent pas que l'il y ait, comme dans Dark Souls, par exemple. Là, Dark Souls 3, il y a déjà des cheaters, hein, sur PC. Hein. Ils ne veulent pas que des gens puissent éditer leur sauvegarde, en fait.
Ouais, je comprends que ça peut poser un problème. Mais, dans ce cas-là, il faudrait que tu puisses verrouiller, par exemple, sur... Je sais que en général, les sauvegardes, tu peux pas importer les sauvegardes sur PlayStation d'un autre compte. Mm. Parce que c'est verrouillé vraiment à ton compte. Là, s'ils font ça sur une sauvegarde qui est bloquée, par exemple, à ton identifiant Steam, PSN ou Xbox One, ils pourraient essayer de corriger ce problème-là. Vu que tu serais obligé de te connecter à ton compte pour pouvoir utiliser cette sauvegarde-là, tu vois.
Ouais.
Normalement, il devrait trouver un moyen d'arranger le problème. Après, c'est vrai que sur PC, ça serait beaucoup plus facile à bidouiller.
Mais sur console, c'est vrai que, d'ailleurs, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas un hasard si Diablo 3 sur console n'a pas de connexion permanente. Hein. Ouais. C'est parce que les mecs ne peuvent pas modifier leur sauvegarde.
Voilà.
Je vous propose qu'on s'arrête là, messieurs. Enfin, qu'on s'arrête là en termes d'actualité, parce que mon cher ATH. Tu vas nous parler d'un jeu qui, pour le coup, n'est pas tout à fait récent, n'est-ce pas? Mais qui nous intéresse quand même. C'est The Evil Within.
There's something wrong with this place.
He wants out!
This is my will.
ATH, The Evil Within, donc c'est la dernière production de monsieur Shinji Mikami, je crois.
Ouais.
Pour les ignorants, hein, il y en a, hein, ne nous manquons pas d'eux, messieurs. C'est le papa de Resident Evil. On peut dire aussi que c'est le papa du genre TPS. Hein. notamment.
Ouais, avec Resident Evil 4, hein.
Tout ça, tout ça. Donc c'est quand même quelqu'un qui, disons, un bon gros CV, quoi. Et donc, The Evil Within, alors, il est sorti quand ça fait un moment, ça fait 2 ans, je crois. Ou
un an et demi, 2 ans, ouais, je peux, ouais. Au moins, ouais.
C'était un jeu qui était très entendu à l'époque, parce que quand même, c'est l'un des fondateurs genre survival horror qui bossait dessus. Et donc, on attendait le jeu au tournant. Alors, en l'occurrence, ça fait partie de ces genres, ce qui me concerne, où, tu sais, t'as la pile de jeux à faire et puis tu dois faire des choix à un moment donné. Donc, malheureusement, il est un peu passé à la trappe. Mais toi, ATH, il se trouve que t'avais un peu de temps dernièrement. Donc, tu as décidé de t'y mettre et tu l'as terminé. Voilà.
Exactement.
Donc, déjà, je voulais commencer par une question, mon cher ATH. Est-ce que le jeu est à la hauteur de la réputation du bonhomme?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un jeu où, contrairement à ce qu'il a pu apporter avec Resident Evil et le 1 et le 4, là, c'est un jeu qui est vachement inspiré de plusieurs survival horror et de mécaniques de jeux de survie, tirés d'autres jeux qui ont eu des grands succès ces derniers temps, et aussi son propre hommage à lui-même, à sa propre série qui est Resident Evil. C'est un peu un mélange qui fait que ce jeu-là n'a pas d'identité propre, en fait. T'as du gameplay à la Resident Evil 4, qui t'ajoute des mécaniques de cover, et où tu peux attirer aussi des ennemis en lançant une bouteille à certains endroits, un peu à The Last of Us. Tu te fais poursuivre un peu par un certain ennemi qui rappellera Resident Evil 3. Un aspect psychologique assez maltraité, je trouve, dans le jeu.
Ils essaient de faire du Silent Hill.
Voilà, si il a essayé de faire du Silent Hill aussi à un certain moment. Et en fait, quand tu vois ça, ça fait un peu un mélange un peu bâtard. Bah,
c'est le menu maxi best-of.
Ouais, mais en fait, ce genre de question que tu te poses, c'est quand tu te dis s'inspirer d'autres jeux, c'est bien, parce que tout le monde t'inspire de quelqu'un, on peut pas créer quelque chose de nouveau comme ça. Mais après, si on essaye justement d'avoir trop d'inspiration, est-ce que ton jeu, finalement, aurait-il une âme propre, quoi?
Ouais, mais surtout, est-ce que toutes ces mécaniques piochées à droite et à gauche fonctionnent ensemble, quoi. Parce que moi, je sais pas, un jeu d'horreur psychologique avec un système à la Resident Evil 4 en termes de TPS, déjà, moi, personnellement, enfin, je sais pas, ce qui fait le charme d'Excellent Hill aussi, c'est que tu joues un mec lambda, quoi, si tu veux. Le fait que, tu sais, tu décris des mécaniques qui viennent de jeux qui n'ont rien à voir, tu vois, en termes de système, déjà, ça me fait peur, personnellement.
En fait, tu vois, là, on va dire que tu joues un officier de police qui s'appelle Sébastien. Il a des choses à se reprocher dans son passé. Il a perdu des êtres chers et il y a un espèce de scénario qui se fait. Mais si tu veux, c'est une histoire, on va dire, en annexe de l'histoire principale. Parce que ce genre de détails t'est donné uniquement par le biais de petites notes que tu peux trouver par-ci et par-là. Donc ça, déjà, moi, je trouve ça pas terrible de trouver ce genre de choses-là. Là où ça fait vachement penser à Silent Hill, en fait, c'est le moment où, justement, pour sauvegarder, à chaque fois que tu vois un miroir, tu peux regarder à travers le miroir qui te amène dans une salle qui appartient à un asile psychiatrique. Et dans cet asile-là, donc, c'est un peu en noir et blanc, si tu veux, avec des textures un peu dégueulasses sur les murs. Et dans cet asile-là, il y a rien du tout, à part une infirmière. Et ce que tu peux faire ici, c'est sauvegarder et upgrader ton personnage, donc augmenter le nombre de munitions de ses balles, etc. Et s'assoit sur une chaise où il y a une espèce de casque qui lui rentre dans la tête avec des seringues. Déjà, donc, toi, tu vois ça, tu vas jamais tirer t'asseoir dessus, quoi.
Faut quand même être un peu dérangé pour faire ça, quoi.
Voilà, et en fait, pour upgrader ton personnage, tu dois récupérer une espèce de substance viqueuse verte qui te permet, ça correspond un peu, si tu veux, aux armes dans Devil May Cry, quoi. Tu augmentes, par exemple, le nombre de balles, le nombre de munitions, plus d'endurance, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, tu te dis qu'il y a quand même des idées qui sont sympas une fois que tu lances le jeu. Sauf que, comme je l'ai dit, ce genre de gameplay un peu à la mi-chemin entre plusieurs genres de jeux qui ont eu un certain succès, et surtout notamment les jeux de survie, ça fait que le mélange ne prend pas vraiment. Je me suis dit, ah mais ça me fait penser à cette scène dans Silent Hill, ça me fait penser à The Last of Us, ça me rappelle Resident Evil.
En fait, tu t'es jamais dit, ça c'est Evil Within.
Voilà, le jeu est aussi très moche, hein, et aussi RAM.
T'as joué sur PS4 ?
J'ai joué sur PlayStation 4, le jeu ne fait pas honneur à la PlayStation 4, ni même à la PlayStation 3, je dirais.
Parce que moi j'ai en fait ma copine là sur PC, donc je l'ai vu jouer, elle a un bon PC et par contre il est joli, hein. Il n'y avait pas de problème de framerate ou quoi que ce soit. Donc il a pas dû être bien fini sur PS4, ouais.
Ah bah il a dû être fini à la pisse, hein, parce que enfin la seule chose en fait qui, si je veux dire un peu le jeu de ça, c'est que il y a tout ce qui est aspect éclairage qui est vachement bien travaillé, je trouve. Surtout que le jeu avant était en format cinémascope et moi j'ai désactivé le format cinémascope parce qu'il y a eu un patch qui est sorti après pour avoir la taille de l'écran totale et complète. Sauf que bah je pense que c'est du fait que j'ai désactivé le mode cinémascope qui fait que le jeu rame. Et alors que, enfin, je veux dire que le jeu pourtant c'est pas un foudre de guerre. La version PS4 pourrait tourner sur PS3, je pense assez facilement. Donc tu vois que le jeu, franchement, il a des soucis de développement et que bah ça fait pas bien quoi. Je suis désolé. Ouais. Si tu fais un jeu aussi moche, au moins qu'il tourne en 60 FPS et qu'il soit fluide.
Bon, ok, c'est un gloubi-boulga d'influence qui fonctionne pas très bien ensemble. Il y a des soucis de finition en termes de technique. Est-ce que quand même c'est un jeu qui fait peur? Est-ce que c'est un jeu qui a une prise en main correcte quand même? Est-ce que ça fonctionne bien quoi?
Ah ouais, non, en tout cas ouais, pour ce genre de choses là. Alors d'abord, je vais parler un peu de tout ce qui a aspect peur. Bah c'est pas un jeu qui fait voilà, c'est pas un jeu qui va faire flipper comme du Amnesia. Ça va être plus un jeu où c'est le gore qui est mis en avant et cette sensation aussi de claustrophobie où t'es dans des endroits très très fermés, tu cherches l'issue, c'est assez sombre, des fois tu te fais poursuivre par des ennemis qui font vachement flipper, enfin genre un espèce de boucher qui te court derrière avec une tronçonneuse, une espèce de sorcière araignée remplie de sang qui sort des murs, enfin dès qu'il t'attrape c'est le one shot hein. Donc à partir de ce moment là je trouve que le jeu, si tu veux, il te met bien en situation de stress, surtout que les munitions c'est vachement chaud quoi. Par exemple dans Resident Evil 4 les munitions t'en avais quasiment tout le temps, là je trouve que les munitions t'es assez limité, donc à partir de ce moment-là, tu dois vraiment faire un choix sur comment tu vas essayer de procéder. Et là, c'est là où le jeu va justement ramener son influence à The Last of Us, c'est-à-dire que tu peux passer certains ennemis en infiltration, c'est-à-dire tu passes par derrière, tu les contournes, tu balances une bouteille pour les attirer un peu plus loin, justement ils entendent du bruit. Si tu vois qu'il y en a trop, tu essayes de passer tranquillement pour pas te faire choper. Tu vois, les mécaniques, si tu veux, en elles-mêmes, elles fonctionnent bien. Même le TPS, si tu veux, c'est du Resident Evil 6.
Mais tu dirais, en termes de jeu, c'est un jeu d'action horrifique ou c'est un jeu d'horreur?
Un jeu d'action très horrifique.
Voilà, ok.
C'est-à-dire que l'idée qui était pas mal, c'est que t'es un peu, si tu veux, dans la psyché de Sébastien. Donc, des fois, le jeu te permet certaines incohérences scénaristiques, mais c'est, si tu veux, un peu expliqué et justement, ça facilite que tu passes d'un endroit à un autre assez facilement. Tu peux te retrouver dans un phare, et la session suivante est dans une forêt, sans qu'il y ait de collecteur logique. Et ça, c'est un peu, si tu veux, la solution de facilité, quand tu veux faire ce genre de choses-là.
On voulait pas se casser le cul, donc ouais, c'est psychologique, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, des fois, ça va être amené par certaines ellipses, des fois, ça va être amené par, bah, justement, le fait que tu passes d'un miroir à un autre. Quand tu vas sortir du miroir, bah, des fois, tu veux pas te retrouver au même endroit où t'es rentré. Et donc, le jeu, si tu veux, il joue un petit peu avec ça. Et, ça, honnêtement, ça fonctionne bien. C'est un truc qui est classique. Très inspiré de beaucoup de jeux.
Et au moins, t'as pas un compagnon IA qui te rend fou, hein, Resident Evil, n'est-ce pas?
Des fois, ici, t'as quelques compagnons qui t'accompagnent, mais c'est jamais plus d'une mission ou deux, quoi.
Hein. Et est-ce que l'IA est aussi pourri que dans Resident Evil?
Ils servent à rien, quoi. Ils sont là, ils tirent sur des ennemis, mais bon, si tu veux, j'ai jamais eu de game over à cause d'eux. Ils sont un peu cons, hein, et ils ont des soucis de pathfinding aussi. Mais en fait, eux, tu les laisses derrière toi, et puis tu fais comme si t'étais tout seul. Des fois, ils se font attaquer par des ennemis, donc il faudra surveiller un peu leur jeu de santé. Heureusement qu'ils ont eu la bonne idée par rapport à ça, que tu puisses les soigner en t'approchant d'eux, et puis t'appuies sur la touche triangle, et il lui met la main sur l'épaule, et puis le mec qui regarde de la santé. Hein. Mais le jeu, il y a un souci aussi, c'est que des fois, il te propose des sensations de Die and Retry totalement gratuites. C'est totalement impossible de savoir que tu vas te faire écarter la gueule la seconde d'après. Et ça, des fois, c'est un peu frustrant, quoi. Heureusement que, bah là, t'as des checkpoints qui sont disséminés à certains moments du jeu. Mais au bout de la première fois, en fait, si tu veux, tu peux pas finir le jeu une fois, même en étant très bon, quoi. T'esquives tout, les pièges et tout, parce qu'il y a un moment dans le jeu, le jeu va te buter, quoi.
Ouais, bah ça fait pas envie, hein, mon cher TH. Je veux pas te... Là, en t'écoutant, je me suis dit, je pense que j'ai des jeux plus intéressants à faire, en fait.
Surtout que c'est un grand nom, tu vois, comme tu l'as dit, c'est Shinji Mikami, donc je l'attendais pas mal. Et au final, le résultat qui arrive, enfin, le résultat livré, c'est un résultat quand même assez décevant. Hein. On va quand même revenir sur les points forts, parce que là, j'ai quand même cité pas mal de points faibles, et donc ça serait un peu tronquer ma critique en disant que j'y ai pas pris quand même certains plaisirs. Par exemple, en tout ce qui concerne les combats de boss, qui sont amenés vraiment de belles bien manières, et qui sont assez coriaces. Après, t'as des mécaniques aussi un petit peu à la Resident Evil, où tu dois faire des énigmes, et essayer de te débrouiller. Donc c'est toujours des énigmes assez faciles, mais si tu veux, t'as cette ambiance où des fois, t'es un peu tranquille, tu te dis qu'il n'y a pas d'ennemis, et là, bam, il y a un mec avec une espèce d'ombre qui apparaît, et qui te poursuit en même temps que toi, tu essaies de résoudre tes énigmes. Et le problème, c'est que si ce personnage-là t'attrape, tu meurs. Heureusement qu'il est assez lent, mais ça te met un stress, si tu veux, supplémentaire, en même temps que tu essaies d'avancer dans un manoir, hein, référence, où ce personnage-là, justement, comme c'est un fantôme, disparaît et réapparaît un peu quand il a envie. T'es toujours sous pression, et là, à partir de ce moment-là, le jeu fonctionne bien. Cette idée-là est pas mal. Et dans le jeu, il y a aussi une mécanique qui va rappeler justement le Resident Evil qui était sorti sur GameCube. Tu as des allumettes qui permettent de brûler les ennemis. Parce qu'en fait, si tu les brûles pas, ils peuvent ils se relever ou pas. Mais ça, c'est pas chaque ennemi systématiquement qui va se relever. Des fois, tu vas croiser des cadavres par terre, d'autres vont t'agresser, d'autres pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir des allumettes, que tu as un nombre très limité, et les brûler. Et justement, ces allumettes-là, comme je disais que des fois, t'as pas beaucoup de munitions, il faut les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que tu peux brûler plusieurs cadavres à la fois, mais il faut qu'ils soient superposés les uns par rapport aux autres ou bien assez proches. Et justement, à ce moment-là, tu peux lancer une allumette qui va te permettre de dégager de 4-5 ennemis, parce que ils sont quand même assez coriaces, tu vois. C'est des mecs qui courent assez vite, qui te font assez mal, hein. C'est un jeu quand même, on va dire, assez difficile pour ce qui se fait aujourd'hui. Donc il y a quand même, si tu veux, des bonnes idées. Et la bonne idée aussi qui a été apportée, c'est l'arbalète, qui est juste jubilatoire à jouer, parce que tu peux justement être safe et te débarrasser assez facilement d'ennemis. Après, c'est que en général, t'as pas plus de 2-3 carreaux sur toi. Donc c'est des trucs qu'il faut utiliser à bon escient, et le gameplay, une fois que tu le maîtrises, c'est quand même pas mal. Donc le jeu, oui, il a beaucoup de soucis. Après, si tu veux, il a quand même certaines choses pour lui, donc je pourrais le conseiller aux amateurs de survival qui attendent un survival depuis longtemps et qui savent pas trop quoi jouer. Après, c'est pas un jeu que je conseillerais à tout le monde, vu que tous les soucis qu'il a, le scénario n'est pas terrible, il y a pas mal de choses comme le framerate et l'aspect technique du jeu qui ne sont pas un foudre de guerre non plus. Donc, vraiment moyen en termes de qualité générale et à réserver à une certaine niche spécifique.
Ouais, uniquement aux amateurs du genre, quoi.
Voilà. Mais après, c'est pas un jeu qui va révolutionner le genre survival. Et puis si vous avez fait déjà beaucoup survival et que c'est un genre de jeu que vous aimez bien mais sans plus, je pense que vous pouvez très bien passer à côté, c'est pas un jeu qui sera culte dans les années à venir, quoi.
Ouais, moi j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai surtout vu donc ma copine y jouer, et c'est vrai que ce que j'ai ressenti en la voyant, c'est vraiment ce côté où t'es jamais tranquille en fait.
Ouais,
non, t'as pas bien de répit dans le jeu. C'est-à-dire que tu peux pas, voilà, il y a pas un moment où tu vas rentrer dans une zone, te dire, ah, tiens, c'est bon, j'ai tué les ennemis qu'il y avait, je peux fouiller tranquille ou quoi. À tout moment, en fait, tu peux avoir un ennemi qui tombe dessus, un ennemi qui se relève parce que tu l'as pas brûlé, et ça, j'ai trouvé vraiment ce côté-là, l'ambiance, cette ambiance-là vraiment sympa. Je pense que c'est, voilà, comme tu l'as dit, Attache, un des gros points forts du jeu. Après, voilà, j'ai pas eu très peu la manette en main, donc j'ai pas pu tester plus. Mais le côté, voilà, en regardant quelqu'un jouer, en tout cas, il y avait vraiment ce côté où t'es très limite en munitions, en allumettes, donc tu peux pas faire ce que tu veux. T'es à tout moment, tu peux te faire attaquer par un ennemi. C'est vraiment, moi, c'est ce côté-là que j'ai trouvé vraiment pas mal.
Non, effectivement.
Après, voilà, j'ai pas joué, donc j'ai pas pu me rendre compte de tout ce qui se passe, mais ce côté-là, c'est vraiment bien fait, j'avais trouvé.
Non, mais après, tu vois, comme je disais, le gameplay en lui-même, il est pas mauvais, hein. C'est classique, ça fonctionne.
Oui,
bien.
Voilà, y a rien de fou. Ils ont pris un peu de Last of Us, un peu de Resident Evil, et voilà quoi.
Voilà, alors que je pense que le jeu justement aurait pu être un best-of de plusieurs survival, si justement ils avaient mis les moyens pour développer une histoire un peu plus travaillée. Mm-hmm. Parce que là, tu sens vraiment que ils ont essayé de tirer vers le Silent Hill. Ouais. Sauf que c'est pas tout le monde qui peut faire du Silent Hill comme il a envie. On en parlait de la semaine dernière avec Silent Hill 2, pour moi c'est une référence en termes d'histoire dans le jeu vidéo, en termes de narration, de tout ce qu'il implique. Là, c'est du Silent Hill fait par M6, quoi, si tu veux.
disons que je pense que le jeu n'a pas bénéficié des moyens qu'il aurait fallu pour...
Oui, c'est toujours pareil.
Voilà.
Ouais, après, je pense que, tu vois, si t'as pas joué à plein de survival horror... depuis les années 90, en fait, depuis le premier Resident Evil, et que c'est la première fois que tu découvres le genre, ça peut faire un bon récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans le domaine.
Ok. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là, messieurs.
Ouais.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.